Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Le quart d'heure de santé, produite par le docteur Guillaume.
Bonjour.
Alors docteur, dans une émission précédente, nous avons parlé de l'ivresse.
Oui.
Et cette fois-ci, nous allons parler de l'alcoolisme chronique.
Eh bien, l'alcoolisme chronique se définit par la consommation régulière et excessive d'alcool éthylique. La maladie alcoolique est une pathologie médico-psychosociale. Elle est médicale par les perturbations organiques qu'elle génère. Elle est psychique parce qu'il n'est pas normal de boire au-delà de ce dont on a besoin. Et elle est surtout sociale par les conséquences pour le malade et pour autrui. C'est donc une préoccupation de santé individuelle, c'est une préoccupation de santé publique et c'est une préoccupation d'ordre public.
Alors comment dépister ?
Eh bien, le dépistage le plus rentable, c'est le dépistage de proximité. C'est le plus pertinent et le plus précoce, parce que les acteurs du dépistage sont les proches, les familiers, ceux qui voient le comportement. Et c'est bien sûr la consommation qui est le premier comportement observé. La consommation est répétée, elle est fréquente, de boissons alcoolisées, de volumes cumulativement importants dans la journée. Tout ceci est une observation qui ne peut pas être ignorée. Bref, le diagnostic d'alcoolisation est accessible à toutes les personnes du proche entourage. Le dépistage n'est pas infaillible. Les buveurs honteux se cachent, ils consomment en solitaire. Les femmes boivent à leur domicile. D'autant que la tolérance, même accompagnée du besoin d'augmenter la dose, est longue et les premiers signes sont tardifs chez le buveur chronique. Le comportement du buveur excessif se modifie. Au début, il est euphorique, enjoué, hyperactif. Parfois, il est triste et pleurnichard. Ce qui est plus ennuyeux, c'est quand il devient méfiant, jaloux, colérique et agressif. Quoi qu'il en soit, avec le temps, ce n'est plus le même. On ne le reconnaît plus. Et puis, tardivement, dans l'évolution de la maladie alcoolique, surviennent des sautes d'humeur, des crises d'autorité, des colères, des endormissements. Tout ceci ne sont pas des signes innocents. Et, plus encore, on peut avoir affaire à des violences familiales, à des bébés secoués, les enfants martyrisés, les femmes battues. Tout ceci sont le fait d'individus psychiquement dégradés du fait de leur alcoolisation. Habituellement, ce sont des hommes qui sont les plus atteints. Les femmes sont vite éliminées du parcours de l'alcoolisme chronique. Les signes d'imprégnation sont tardifs, après plusieurs années de bonne tolérance. Les signes d'aspect du visage sont évocateurs. On peut faire le diagnostic dans le métro. Le visage est bouffi, il est rougeau. Il est parsemé de varicosité. Le tremblement de la langue est observable comme le tremblement des mains.
Alors, quelles sont les conséquences de cet alcoolisme chronique ?
Eh bien, la vie sociale est perturbée. La famille souffre, l'éducation des enfants en pâtit. Les voisins évitent l'individu, le buveur gaspille sa vie, c'est bien dommage, mais surtout, le buveur gâche la vie des autres et ça, c'est insupportable. La vie professionnelle est vite perturbée, les erreurs, les fautes, les défauts de travail, les retards, les absences, les accidents de travail, les accidents de trajet, et surtout, les successions rapprochées de tous ces épisodes n'échappent à personne. Cela peut conduire à la restriction d'emploi ou à une suspension de la fonction pour inaptitude.
On peut même en arriver jusqu'à la délinquance.
Effectivement, l'IRIX, la conduite sur route en état d'alcoolémie et le révélateur ou la confirmation de l'intempérance. L'accident de la voie publique, du conducteur, du passager, du passant, va de la blessure, du handicap, la mort du buveur ou de l'usager de la voie publique. Tout ceci sont des événements qui ouvrent le chapitre judiciaire. Et les risques après boire sont fréquents.
Et alors, les pathologies ?
Alors, les pathologies surviennent progressivement. Ce sont des aigreurs d'estomac, des pituites, ça veut dire des renvois de liquide acide dans la bouche. On a des crampes dans les muscles, des douleurs, des tremblements, des fatigues. Ensuite, ce sont des signes cliniques plus spécifiques de cirrhose, de névrite. Bref, et parfois, quelques cancers sont imputables à l'alcoolisme, notamment de la bouche et de l'estomac. Quant aux pathologies encéphaliques, elles s'expriment habituellement par des crises d'épilepsie ou bien encore des diminutions de l'acuité visuelle.
Mais ça va même jusqu'à des troubles psychiatriques.
Ce sont les troubles psychiatriques, ceux qui modifient l'humeur, qui sont les plus ennuyeux. Le malade est anxieux, il est jaloux, méfiant, pleurnichard. Il réfléchit, impulsif. Il est dangereux pour lui-même et pour les autres. Quant au déficit intellectuel et la perte de la mémoire, elles s'aggravent à mesure que l'évolution persiste.
Nous allons faire une pause musicale.
Sur la lune, vendu ton âme pour faire fortune. Les gens s'inclinent devant toi, tu agis toujours de sang-froid. Tu séduis, tu enfumes, tu bats les records pour faire la une. Des amis, tu en as des tonnes, des messages par ton téléphone. Seule, tu finiras toute seule. Tu finiras toute seule. Oh, tu n'as jamais pris la peine. Tu as marché sur mon cœur, vendu mon âme à un docteur. Je t'ai aimé tous les jours, j'entendais tellement en retour. Loin de toi tout ira bien, j'apprendrai à être heureux. Tu trouveras un autre pantin qui voudra bien jouer à ton jeu. Oh, et tu finiras toute seule. Toute seule, tu finiras toute seule. Oh, tu n'as jamais pris la peine. Regarde tout autour de toi.
Donc, nous parlons de l'alcoolisme chronique et, docteur, nous en arrivons alors à l'évolution de la maladie.
Alors, oui. L'évolution de la maladie est longue, elle se compte en années. La tolérance est longue, elle s'accommode même d'une augmentation progressive des doses ingérées. Quant à la dépendance, on dit aussi lassuétude et l'addiction. Alors, c'est une définition importante, c'est la perte de liberté de s'abstenir de boire. La dépendance, c'est cela, la perte de la liberté. L'alcool est devenu indispensable pour éviter le mal-être de sa privation. C'est d'abord une dépendance psychologique, c'est-à-dire l'habitude de boire, parce que c'est l'heure, c'est l'habitude de se retrouver en groupe, c'est à l'occasion des repas. Ce peut être aussi le plaisir de boire, mais ce peut être aussi simplement un comportement d'habitude. Et il n'existe pour le buveur aucun inconvénient à supprimer cette ingestion, même plusieurs jours consécutifs, car il n'y a pas de dépendance physique. Mais, la dépendance physique, voilà. Elle, c'est un état de manque, une envie irrépressible et un besoin. Il y a un besoin impératif d'absorption, c'est une compulsion génératrice d'un comportement de recherche du produit. L'alcool est devenu une drogue indispensable, non pas pour le plaisir, mais pour éviter le malaise de la privation. Et c'est là le piège, le drogué est accro, et là nous entrons dans le drame. Le drame, c'est le syndrome de sevrage, le syndrome de manque, qui s'observe en cas d'impossibilité de boire en quantité suffisante, ou alors d'un sevrage subi, par exemple en cas d'hospitalisation. Mais ce peut être aussi le réveil avec une alcoolémie basse, qui est trop basse pour éviter le manque. Il se manifeste habituellement par une agitation, un léger tremblement plusieurs heures après l'abstinence, le matin au réveil, et le malade connaît bien son remède. C'est l'injection d'alcool qui calme spécifiquement tous les inconforts. Et c'est effectivement une attitude qui est tout à fait inhabituelle que de prendre une boisson alcoolisée le matin au réveil pour éviter cet inconfort. Le stade de syndrome sévère du sevrage apparaît souvent après une crise d'épilepsie, mais parfois survient après un syndrome modéré. Les mains tremblent, la trémulation s'étend aux membres, la sueur perle, l'agitation s'accroît, l'anxiété, la confusion, la désorientation dans le temps et dans l'espace apparaît. Et puis, on cite aussi les hallucinations, notamment des zoopsies, c'est-à-dire que ce sont des visions d'animaux, des insectes qui apparaissent. C'est ce qu'on appelle les éléphants roses qui montent, oui. Qui grimpent au rideau ou sur les murs. Bref, et le terme, c'est le délirium tremens, avec parfois des réactions de fuite et de défense qui sont potentiellement dangereuses pour les soignants.
Et alors, en plus des conséquences dont vous avez parlé, il en existe aussi, je pense, de financières.
Alors, les conséquences financières sont considérables. Je me limiterai aux conséquences financières proximales et non pas celles du budget de l'État. Le coût d'une cirrhose est à la charge de son acquéreur. Calculons ensemble les dépenses quotidiennes, mensuelles, annuelles, décennales. Sur 20 ans, vous atteignez le prix d'un véhicule de luxe. Le buveur a acquis une cirrhose en 10 ou 20 ans de versement. Ce n'est pas du vol, il l'a pas volé. Mais la perte des revenus disponibles a des conséquences prévisibles. L'ensemble des manques de revenus et de dépenses représente des sommes qui sont transférées de la vie courante à la satisfaction des besoins impératifs. La famille et les enfants sont les premières victimes. Comme le dit l'adage, le père boit et la famille trinque. Le coût des soins des malades, mais ils sont plusieurs millions en France, hommes et femmes, sont considérables. Mais nous avons dit que nous ne parlerions pas de l'aspect financier au niveau national. Quant au coût des dégâts à autrui, en cas d'accident, que ce soit matériel ou des dommages corporels, les indemnisations des préjudices, tout cela est imputé à leur hauteur. L'assureur fait valoir la clause d'exclusion de prise en charge, parce que ce sont des événements routiers provoqués sous l'emprise de l'alcool volontairement acquis. Quant au dépistage médical de l'alcoolisation, elle échappe souvent aux médecins. Son observation clinique en consultation est brève et épisodique. Les premiers signes d'imprégnation sont tardifs, précisément parce qu'il y a une tolérance qui s'accroît avec le temps. Mais les quelques grands buveurs supportent bien et longtemps, malgré une alcoolémie qui n'est jamais nulle au cours de la journée, voire jamais nulle dans l'année. Le malade ne déclare pas spontanément les pituites médicales à son médecin, les remontées acides de liquide gastrique et surtout pas sa consommation. Quant aux examens complémentaires, les gamma GT, les valeurs globulaires, l'électroencéphalogramme, le scanner, tout ça, ce ne sont que des examens complémentaires qui sont déjà très tardifs et qui ne contribuent pas beaucoup à un diagnostic précoce. L'accompagnement médical est tardif, comme vous le voyez, et le dépistage de proximité, c'est le plus proche, c'est la présomption, et c'est elle qui permet d'avoir une argumentation de bonne qualité pour dire que c'est un alcoolisme chronique. Et le but de l'accompagnement médical est de conduire au sevrage, à l'abstinence, ou tout au moins à une réduction des consommations. Quant aux autres intervenants, la famille, les intervenants financiers, juridiques, ils sont aussi co-thérapeutes des dégâts associés.
Alors, quelle thérapie appliquer ?
Eh bien, les thérapies visent à réduire significativement la consommation, voire à sevrer, c'est-à-dire à supprimer les ingestions toxiques, immédiatement et durablement dans les meilleurs cas. Mais les traitements médicaux des malades organiques et des troubles psychiatriques sont dépendants du sevrage. Le traitement en ambulatoire se fait aussi en cure et parfois l'hospitalisation est nécessaire pour des pathologies violentes. À ce moment-là, il peut y avoir même une contention et les malades sont traités par hydratation, par vitamines et sédatifs en milieu fermé. Quant au suivi, le traitement ambulatoire, la psychothérapie de post-cure, l'adhésion à une association d'anciens buveurs dans un temps ultérieur, tout ceci sont de très bonnes méthode, mais aucune méthode n'est parfaite en soi. Donc les résultats vont de la guérison par sevrage total et définitive jusqu'à une stabilisation socialement acceptable et à une réinsertion. Mais parfois c'est l'échec, c'est la rechute, et la déchéance est hélas parmi les évolutions observées.
Et la prévention,
y a-t-il une prévention ? À ma connaissance, elle n'est pas médicale.
Ouais.
Il n'existe pas de profil psychologique préalcoolique. Peut-être une présomption génétique, mais ce n'est pas très sûr. Bref, à mon avis, l'éducation et le modèle familial sont prépondérants pour prévenir l'alcoolisme chronique.
En conclusion ?
Eh bien, il faut boire ou bien vivre, mais dans les deux cas, il faut choisir.
Oui, au revoir à tous.